Monique, c'est à vous. Que manger après 50 ans pour prévenir les blessures?
Oui, j'aurais dû ajouter musculaire, Hélène.
Ah oui, OK. Ben, le titre dans la conversation, c'est « Que manger après 50 ans pour prévenir les blessures musculaires ». Bien oui, c'est un mot important.
Exactement. Alors, de plus en plus de personnes envisagent de faire de l'exercice physique après 50 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que oui. Les différentes associations médicales, en tout cas, s'accordent à dire que c'est oui la réponse. L'exercice physique est non seulement essentiel pour prévenir les maladies, mais il est également recommandé dans le cadre du traitement de nombreuses pathologies. Cependant, commencer à bouger à ce moment-là de notre vie nécessite certaines précautions, surtout pour les personnes sédentaires, en surpoids ou obèses. Alors, adopter d'emblée un programme trop exigeant, combiné à une alimentation inadaptée, peut entraîner des blessures musculaires, comme l'indique le titre, mais aussi osseuses. Donc, après 50 ans, ce risque est accentué par la perte naturelle de masse musculaire et osseuse liée, malheureusement, au vieillissement, Hélène. Ah là là, et puis ça commence très jeune, hein, cette détérioration-là. Je pense que c'est autour de 35 ans, là. Alors, avant d'entamer tout programme d'exercice, il est donc conseillé de réaliser un bilan sanguin complet afin d'évaluer la nécessité d'une supplémentation en cas de carence en micronutriments. Peut-être vous demandez-vous qu'est-ce que ce sont ces micronutriments? Ben, c'est des vitamines et des minéraux dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. Mais ces micronutriments ne fournissent pas d'énergie. Au-delà donc des micronutriments, l'organisme a besoin de macronutriments, soit des glucides, des lipides et des protéines. Les protéines en particulier apportent des acides aminés essentiels qui jouent un rôle clé dans le maintien et le développement des muscles. Les acides aminés essentiels, ben, c'est des éléments constitutifs, Hélène, des protéines. Elles aident aussi à prévenir la perte de masse et de force musculaire liée au vieillissement, un phénomène connu sous le nom de sarcopénie, souvent associé à la fragilité ainsi que les lésions musculaires et l'ostéoporose. Les besoins en protéines varient en fonction de la situation clinique de l'individu. Chez les personnes actives de plus de 50 ans qui ont une activité physique modérée, les besoins en protéines sont compris entre 1 et 1,5 g par kilo de poids corporel par jour. Alors, à vous de faire votre calcul. Mais attention, un apport accru en protéines n'est justifié que s'il est accompagné d'une activité physique. Un excès de protéines peut avoir des effets contre-productifs, en particulier sur la santé osseuse, notamment en augmentant la perte de calcium par les urines. Il est recommandé de combiner les aliments d'origine végétale comme le soya, les lentilles, les graines de courge, les cacahuètes et animales comme les œufs, les laitages, la volaille, le poisson pour un apport protéique équilibré. D'autre part, bien que l'idéal soit d'avoir une alimentation équilibrée entre les deux types de nutriments, il a été démontré que le respect des recommandations diététiques végétariennes est compatible avec la pratique du sport de haut niveau s'il y a un suivi médico-nutritionnel adéquat. Il faut faire aussi attention au moment de consommation des protéines, c'est aussi important que leur quantité. Il est donc préférable de les répartir sur la journée et de privilégier une prise dans les 30 minutes avant ou après l'exercice pour en optimiser l'absorption. En ce qui concerne les micronutriments, soit les vitamines et les minéraux, certains d'entre eux jouent un rôle fondamental, dans la pratique sportive à cet âge. Alors retenons l'importance du magnésium, calcium et de la vitamine D. À quoi sert le magnésium? Ben, il favorise la récupération musculaire et la formation des os. Ce micronutriment se trouve dans des aliments comme le son de blé, le fromage, les graines de tournesol, de citrouille, pardon, et les graines de lin. Quant au calcium, ben, il est essentiel pour maintenir une minéralisation osseuse adéquate et prévenir la perte de densité minérale osseuse, ce qu'on appelle l'ostéopénie, qui mène éventuellement à l'ostéopause, associée à la carence...
en chantant ou presque.
Ben, c'est parce qu'on en entend tellement parler, oui. Je pense que les femmes, on est très affectées par cette ostéoporose, ostéopénie, etc. Alors, associé à des carences de cet élément dans le sang. Traditionnellement, l'un des grands alliés de la santé osseuse est la consommation de produits laitiers, tant pour leur biodisponibilité en calcium que pour leur apport en vitamine D dans leur version laitière issue du lait entier. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est la biodisponibilité, mais c'est le degré et la rapidité avec lesquels un médicament passe dans le sang et atteint son site d'action. Je reviens sur les produits laitiers issus du lait entier, parce que si on veut remplacer les produits laitiers, soit parce qu'on est intolérant, il y en a de plus en plus d'ailleurs d'intolérance par rapport aux produits laitiers, ou soit par choix, ben on peut incorporer dans son régime alimentaire les légumes verts, les légumineuses, légumineuses comme les lentilles, les haricots, les pois chiches, le tofu à base de calcium. On peut aussi penser aux fruits secs. Oh, ça, c'est pas désagréable, hein? Des amandes, des figues, des dattes. On pense aussi aux graines, comme les graines de sésame et les graines de chia et, bien sûr, bien d'autres aliments de cette nature. D'autres aliments donc d'origine végétale, comme la pâte de sésame, les amandes, les graines de lin, le soya et les noisettes, sont considérés comme des sources de calcium, mais pas facilement absorbables, semble-t-il. Enfin, les poissons gras, on pense au thon, à la sardine, au saumon, et les jaunes d'œufs sont considérés comme des sources complémentaires de vitamine D dans le cadre d'un schéma alimentaire axé sur les personnes de plus de 50 ans qui pratiquent une activité physique. Alors, on a toute une liste d'ingrédients là qu'il faut mettre sur son frigo pour faire de l'exercice et préserver nos os et nos muscles. Il est tout aussi important de maintenir une bonne hydratation avant, pendant et après l'exercice. Puis même quand on ne fait pas d'exercice, hein, Hélène, vous avez toujours votre bouteille d'eau à côté de vous, n'est-ce pas?
Toujours, ma bouteille d'eau et mon café.
Oui, bon, OK, on pourra discuter de cet amalgame, là, mais bon. Mais la déshydratation et la surhydratation peuvent toutes les deux affecter les performances et augmenter le risque de blessures musculaires. Donc, toujours trouver l'équilibre. Jusqu'à présent, on a surtout abordé donc dans l'article le lien entre alimentation, performance physique et risque de blessure. Mais il y a un autre facteur qui entre en jeu. Vous le devinez, Hélène, c'est le type d'exercice pratiqué. Sur ce point, semble-t-il que le débat reste ouvert. De nombreuses recherches s'intéressent aujourd'hui à l'activité physique la plus appropriée en fonction de l'âge, du sexe ou de la composition corporelle. Faut-il privilégier les exercices de force, alterner avec des séances de cardio ou encore répartir les deux sur des jours différents? Bon. Je pense qu'il faut aussi se fier à nos intérêts personnels pour faire ces choix-là, tout en étant bien conseillé peut-être par des kinésiologues et notre médecin. Cependant, malgré les différentes théories sur le sujet, une chose est claire, l'exercice régulier, adapté aux capacités de chacun et accompagné d'un bon suivi médical et nutritionnel, réduit le risque de multiples maladies et améliore la qualité de vie. Alors, je vous souhaiterais un bon entraînement, bien appuyé par une bonne alimentation.
Grand merci, Monique.